Voilà, nous revenons à notre passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Alors, malheureusement, Isabelle, je me suis mélangé avec mercredi, on a regardé Jean 7. Et là, c'est Jean 5. Mais bon, c'est une histoire qui nous est familière. Nous allons lire donc à partir du verset 17 pour reprendre le fil. Mais Jésus leur répondit, Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean-Baptiste. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Et donc, nous voulons continuer de regarder, comme nous avons fait la semaine dernière, le cœur de la Bible, le cœur de l'Évangile. On a vu que ce passage fait suite à la guérison d'un paralytique à Bethesda. Et là, on a une belle image qu'on a remarquée, hein, la miséricorde du monde, qui n'est pas une miséricorde, et l'envoyé de Dieu, le Fils de miséricorde, celui que Dieu a envoyé dans sa miséricorde, dans sa grâce, et qui donne la vie. Et cet homme a été guéri après toutes ces années, presque 4 décennies. Il a été guéri totalement, immédiatement, directement, guéri de sa maladie. Mais, les chefs des Juifs, quand ils ont appris ça, au lieu de regarder le grand miracle qui est un signe, ils voient une autre chose. C'est que Jésus a fait cela le sabbat. Et donc, ils ne respectaient pas leur tradition. Parce que le respect du sabbat dont ils parlent ici, ça n'est pas même, il n'est pas même question ici du commandement. C'est quelque chose qu'ils ont développé dans le sens que peu importe le fait que Jésus a eu de la compassion, a fait une œuvre de miséricorde, il a transgressé leur vision des lois. Et ici, en fait, on a cette confrontation, la confrontation, bon, pas éternelle, mais ancienne, la confrontation qui dure toute la vie entre la grâce et la religion. Et c'est important pour nous de garder cette confrontation à l'esprit parce que c'est quelque chose qui est sans cesse dans notre cœur, par nature. Alors, chez l'incroyant, c'est quelque chose qui est qui tient le haut du pavé, on pourrait dire. C'est quelque chose qui le dirige. Chez le croyant, c'est quelque chose contre lequel il lutte. Mais la nature humaine étant là, il y a toujours cette confrontation entre le principe de la grâce, c'est-à-dire faire confiance à Dieu et abandonner tous les droits devant Dieu et le laisser agir, en quelque sorte, et le principe de la chair, le principe des efforts, le principe de la religion, c'est-à-dire gagner l'acceptation auprès de Dieu par quelque chose qu'on est ou quelque chose qu'on fait. Et nous avons déjà vu que ces choses-là peuvent imprégner toute la vie. En fait, c'est rare, est-ce même possible, de rencontrer quelqu'un qui ne pense pas être finalement OK, finalement juste. Alors, on va voir l'homme de la rue, n'est-ce pas ? Et bien qu'il va payer, qu'il va reconnaître par les lèvres ne pas être parfait, mais quand même, d'une manière ou d'une autre, et là c'est assez difficile des fois à suivre le raisonnement, tout va bien se terminer parce que quand même s'il n'est pas bon, il n'est pas si pire que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, voyez. Mais même chez le croyant, cette chose-là existe. Il y a le sens dans lequel, d'une manière ou d'une autre, les choses vont bien aller parce que quand même, finalement, alors on ne le dira pas comme ça, je suis quelqu'un de spécial. Je vois les choses clairement. Et ainsi de suite, enfin, toutes sortes d'excuses. Alors, c'est un porte-à-faux, bien entendu, pour le croyant. C'est l'esprit même de l'incroyance, de l'incrédulité. Mais c'est avec chacun d'entre nous. Et il nous faut veiller, parce que cette semence peut très vite se développer dans une récolte de propre justice. On voit ça très bien chez les pharisiens. Et les pharisiens, bien entendu, sont devenus l'image même du propre juste, de celui qui en fait se ferme la voie du ciel parce qu'il se pense justement de droit comme citoyen du ciel. Mais on le voit aussi chez les apôtres, chez les disciples eux-mêmes. Rappelez-vous, ils étaient là en train de marcher sur une route de Palestine en présence du Fils de Dieu. Et tout ce qui occupait leur esprit, c'était de savoir quel était le plus grand parmi eux. Parce que, quand même, Pierre, c'est celui qui est nommé toujours le premier. Mais Jacques et Jean, c'est des hommes qui étaient vraiment zélés. Les fils du tonnerre. Et puis, ainsi de suite pour les autres. Même Nathanaël, il avait ses préjugés. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Non, ça ne peut pas. C'est impossible. Alors que tu as dit que ce qui n'est pas possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Oui. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut veiller. Et ici, dans ce passage, Jésus fait vraiment face à cet esprit de la religion. Et il va confronter les pharisiens, non pas pour les censurer, non pas pour les détruire, mais pour les inviter à venir à la vérité. Parce que ce qui n'est pas important, c'est est-ce qu'on a fait on a observé toutes les stipulations du sabbat, ce que les pharisiens eux-mêmes savaient qu'ils ne faisaient pas. Quand il fallait circoncire quelqu'un pour en faire un des leurs, alors, peu importe le sabbat, on le faisait ce jour-là. On n'attendait pas le lendemain. Oui. Mais ce ne sont pas les stipulations du sabbat qui sont importantes. Parce que le sabbat est un signe. C'est une image. Qu'est-ce qui est important? C'est celui qui est le sabbat. Celui qui est le repos de son peuple. Et comment est-ce qu'il est le repos de son peuple? C'est lui qui va faire l'œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre. L'heure vient, dit-il. Et l'heure est déjà venue. Ou quelque chose d'autre va être là. Et c'est lui. Et donc on a vu la base de toute cette confrontation. Le fait que, en fait, Jésus-Christ a manifesté qu'il est envoyé de Dieu. Il a la puissance. Il a fait quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Même parmi les Juifs, ils avaient leurs exorcistes. Mais quelqu'un qui peut guérir un malade, un paralytique, qui est paralysé depuis tellement de temps, ça on n'a jamais entendu. Et c'est basé là-dessus. Jésus apporte quelque chose qui n'est pas, qui n'entre pas dans leur système. Et veillons à cela nous-mêmes. Veillons à cela nous-mêmes. Parce que les pharisiens étaient persuadés que leur système était juste. Mais ils étaient tellement persuadés de la justesse de leur système qu'en fait, ils ont enlevé toute la puissance qu'il pouvait y avoir. Ils connaissaient d'une certaine manière la vérité puisqu'ils sondaient les Écritures. Mais ils la vidaient de toute leur force. Au lieu de regarder l'homme guéri, ils voyaient le sabbat qui était violé. Et on a remarqué que c'était le mot qui était dissous. Jésus-Christ, il ne détruit pas le sabbat. Il le dissout. C'est-à-dire qu'en fait, il le rend sans aucune importance parce que lui-même est là. Et de la même manière que si vous aviez un jeune amoureux qui passait son temps à regarder la photo de sa dulcinée, bon, on n'a pas de problème avec ça. Mais s'il continue à le faire alors que la demoiselle est à côté de lui, là, il y a un problème. C'est un insensé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'esprit de la religion. Ils ont le Fils de Dieu qui est déclaré Fils de Dieu avec puissance par le Saint-Esprit. Mais ils ne le voient pas. Ils restent avec leurs stipulations. Et nous avons vu ce que Jésus revendique. Le gros problème avec les pharisiens, c'est que Dieu ne pouvait pas entrer dans leur système. Ils avaient une image de Dieu. Ils avaient fabriqué, en fait, leur propre Dieu, avec des éléments de la vérité. Ça montre vraiment le caractère tordu du cœur humain, du cœur que nous avons par nature. Mais Dieu ne peut pas entrer dans leur système, parce que tout d'un coup, ils sont en face de quelque chose qui déclare clairement que Dieu l'a fait, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils sont aveugles. Ils sont dans l'incrédulité. Et ils entendent que Jésus-Christ, non seulement il dit « oui, j'ai fait cela », c'est une œuvre de Dieu, mais parce que je suis Dieu, je suis l'égal du Père. Il se fait fils de Dieu. C'est intéressant, regardez, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis, j'ai la même nature que mon Père. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En fait, il réclamait qu'il avait la même nature que le Père, la nature divine. Et ça, l'homme religieux ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter quelque chose qui vient en dehors de son système. Encore dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui était soi-disant ouvert d'esprit. Mais demander à la personne de venir face à la vérité, alors là, il n'y a plus d'ouverture d'esprit. Non, non, ça c'est impossible. On ne va pas me bousculer avec ça. Pas du tout. Non. Ici, Jésus revendique que non seulement il fait des choses qui sont hors du commun, mais en fait, il est Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu est là, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut voir ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Et c'est ainsi, donc, que nous voyons Jésus revendique la divinité. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre monde, à ouvrir notre vie à ce Jésus qui entre? On a remarqué que personne ne l'a invité à venir à Bethesda. C'est lui qui vient. Et de la même manière, personne n'a invité le Seigneur à descendre sur la terre. On a lu ce passage dans Jean 1, c'était très bien choisi, dans le sens que il est venu, il est la lumière, mais même les siens, le monde ne l'a pas reçu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Or, on a cette image, c'est l'image vraiment une image qui est contre nature, parce que vous vous mettez dans un endroit totalement obscur, et vous mettez la plus petite lueur possible, mais les ténèbres reculent. Et là, c'est le contraire, en fait. Les ténèbres cherchent à absorber la lumière, à la dissoudre, à la détruire. Donc, Jésus est là et il montre en cela quelle est la dureté, quelle est l'incrédulité qui est au fond du cœur, même du cœur religieux. Et c'est un avertissement, bien entendu. Donc, ce que Jésus revendique, mais aussi la réponse que Jésus exige. Et c'est très important parce que là, c'est le cœur de la religion qui est mis à nu. On va le voir encore tout à l'heure. Mais si Jésus demandait simplement un assentiment intellectuel, oh, beaucoup de gens seraient sauvés. Beaucoup, beaucoup. Parce que quelque chose qu'on comprend, ah, c'est beaucoup plus facile à accepter, n'est-ce pas? Mais ici, en fait, Jésus vient en tant que Dieu et il exige l'adoration. L'adoration. Et c'est intéressant qu'il exige cela en se mettant sur le même pied que le Père. Et il leur montre, regardez au verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et donc, la meilleure façon d'adorer, ça n'est pas de lever les mains, de crier « Alléluia » et tout ça. Ça, c'est un épanchement du cœur. Qu'est-ce que c'est? La meilleure façon d'adorer, c'est obéir. Et c'est très intéressant comment Jésus utilise les mots ici. En fait, il dit littéralement « Car comme le fait le Père lève les morts et donne la vie, ainsi, le Fils, c'est-à-dire Jésus, donne la vie à qui il veut. » Mais rappelez-vous, ces gens à qui il parle, ce sont eux qui ont vu le paralytique se lever quand Jésus lui a ordonné de se lever. Le Père lève les morts et lui, il a levé le paralytique. Et donc, il fait la même œuvre que le Fils. Ils ont la parabole devant les yeux. Encore en tête. Et là, il appelle, il demande, il exige l'adoration. Et l'adoration, comme je le dis, c'est l'obéissance. C'est ça le plus difficile. Vous annoncez l'évangile le plus simplement du monde à quelqu'un. Et la personne dit, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de comprendre. C'est une question de voir qui c'est qui parle, de qui on parle et de croire. Et la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, tout simplement. Une obéissance, bien entendu, qui est impossible au cœur humain par nature. Impossible. Paul développe ça de manière magistrale quand il écrit aux Corinthiens. Le cœur de l'homme ne peut pas saisir ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est dans un autre registre. C'est spirituellement qu'on en juge. On n'arrive pas à saisir ces choses-là naturellement. Donc on a vu cette exigence que Dieu, que Jésus a. Il n'est pas simplement intéressé dans des disciples, c'est-à-dire dans des gens qui vont le suivre intellectuellement. Mais combien de fois on essaye de comprendre? Alors, il y a une certaine compréhension, il y a une raison dans la foi, mais ça va bien plus loin. Parce que c'est cette union avec Christ, cette union avec Dieu en Christ, par le Saint-Esprit, qui fait qu'on se détourne de soi-même, de ses capacités, de son système, pour s'ouvrir à Dieu. Maintenant, voyons les promesses que Jésus donne. Les promesses que Jésus donne. Quiconque, par la puissance du Saint-Esprit et selon le dessein du Père, entend et obéit à la parole du Fils, quiconque fait cela à la vie éternelle. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Ça n'est pas que quelqu'un peut parvenir à la vie éternelle. Combien nous voyons cela? Il y a même des tas de chansons, on pourrait entrer dans le détail, ce n'est pas la peine. Mais j'espère arriver à la vie éternelle. Non, l'évangile, ça n'est pas aller à la vie éternelle, c'est la vie éternelle qui vient. Quiconque fait cela, et seul quelqu'un vers qui Dieu est venu et à qui Dieu fait grâce, peut le faire, cette personne-là a la vie éternelle. Marcher dans ce monde de désespoir avec dans le cœur la vie éternelle, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on regarde les versets 25 et 20 à 29. Regardez. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas une œuvre de l'homme, parce que l'homme qui est mort, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est entendre. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et là, on a déjà remarqué cette merveilleuse équilibre qu'il y a entre les personnes de la divinité qui sont égales, mais dont les rôles sont spécifiques. Et verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. C'est-à-dire qu'en tant que Christ envoyé de Dieu, Christ peut déclarer tel ou tel juste ou coupable. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné cela. Dieu lui a donné la sagesse pour cela. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et ici, nous n'avons pas le fait un salut par les œuvres. Non, c'est que quelqu'un fait des œuvres, fait le bien, c'est quelqu'un en qui Dieu œuvre. Le bien n'est pas faire le bien. Le bien, bibliquement, c'est faire ce que Dieu demande de faire. Parce que quelqu'un peut faire le bien afin de sauver sa peau. On peut venir à Christ pour éviter l'enfer. Mais ça, ce n'est pas le bien, ce n'est pas le salut. Ça, c'est simplement une espèce d'échappatoire. Voyez. Donc, ici, l'heure vient car Jésus va expier les péchés de son peuple. Il va y avoir un effacement de la dette, comme on a entendu tout à l'heure. Il va y avoir le fait que maintenant, la dette à la justice et à la sainteté de Dieu est payée pour ceux qui sont en Christ. Et l'heure est déjà venue, car sa voix de vie retentit déjà dans l'Évangile. Ceux qui l'entendent peuvent trouver la vie. Ou ceux qui sont morts entendront et vivront. Voilà, il y avait les pharisiens, ils entendaient la voix de Christ. Et cette voix, elle est pleine de vie. C'est la voix qui a guéri cet homme. Mais les pharisiens ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent à l'entendre selon la chair. Et selon la chair, cette voix n'a aucune valeur. Mais les pécheurs, les publicains, les escrocs, les prostituées, les gens que la vie a complètement déchirés, ces gens-là, ils entendent la voix. Pourquoi? Parce que Dieu touche leur cœur. Voyez, elle est déjà venue, cette voix résonne. Et ces gens-là, ceux qui sont morts, mais quand ils entendent, et ça c'est la vie qui est donnée, ils vivent. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il a été envoyé pour accomplir le salut. Quand Christ est là, il n'est pas là comme un leader religieux, il n'est pas là comme un moralisateur, comme quelqu'un qui va ouvrir la voie, dans le sens que après j'imite son exemple. Non, il est celui qui est venu payer la dette. Il est celui qui est venu faire ce que l'homme n'a jamais pu faire. Et effacer la dette. Il est fils de l'homme. Il accomplit donc le miracle de la régénération, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte. La mort, maintenant, n'a plus de pouvoir sur Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il a accompli son œuvre, et parce que son œuvre est parfaite. Et quiconque est en Christ est au bénéfice de cette œuvre. Et quiconque est en Christ ne peut plus être touché par la mort. Plus du tout. Sa chair, oui, mais pas lui. Pas lui. Donc c'est la régénération et l'Esprit vient et il applique cela au cœur en donnant la vie. Il régénère. Et Christ ici parle du miracle de la nouvelle vie spirituelle. Regardez le chapitre précédent, chapitre 4 ou verset 23. Il réutilise le même mot, il parle à la femme samaritaine là. Est-ce que c'est sur cette montagne religieuse ou cette montagne religieuse qu'il faut adorer? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire selon ce que Dieu a dit. En esprit, c'est-à-dire avec une nouveauté de vie. Il n'y a pas d'esprit dans l'homme mort. Il est mort. Il est mort. Et donc, celui qui entend, quand bien même il est mort, il vit pour Dieu. Il vit pour Dieu. Le pouvoir de juger dont Christ parle ici, il a reçu le pouvoir de juger, c'est plutôt la question ici de discerner, de faire une sélection. Et on se rappelle la fin du chapitre 2 de Jean, quand une multitude croit en son nom à cause des miracles qu'il faisait. Mais il ne croit pas en eux. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur. Et là, il ne voit pas l'œuvre de son esprit. Voilà des gens qui sont frappés par les miracles. Ils sont même quand même mieux que les pharisiens, parce que les pharisiens n'étaient même pas frappés par le miracle. Mais il y a un homme qui vient, un homme qui a tout faux. Et pourtant, Jésus passe du temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et il sait là que c'est l'esprit qui amène Nicodème. Et comme on a vu chez Jacob, Nicodème, c'est vraiment un fils de Jacob. Il n'y a rien. Et il faut attendre pratiquement Jean chapitre 19 pour avoir quelque idée que Nicodème, d'une manière ou d'une autre, il n'est quand même plus du tout le pharisien classique. Mais il y a quelque chose qui a touché son cœur. Mais Jésus a du temps pour lui. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, cette sélection... qui est déjà faite en fait. Quiconque entend et croit entre dans un nouveau statut vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on a conscience de cela en tant que croyants, si nous sommes croyants? Est-ce que nous avons conscience du fait que l'Évangile offre, l'Évangile annonce un nouveau statut devant Dieu? La culpabilité a disparu. Oh, mais les chrétiens ne sont pas des gens parfaits. J'en connais même et tout ça. Oh oui, et si vous allez même dans les pages de l'Écriture, David, Abraham, Jacob, même après qu'il soit touché, ce qui n'était pas quand il était à Bethel, mais plus tard, mais même Jacob après, il vivait comme un homme, souvent. Surtout quand son fils, Joseph, celui en qui il pensait la promesse allait s'accomplir, quand les choses ne tournent pas selon Jacob, oh, Jacob a des problèmes, beaucoup de problèmes. Ça dure longtemps, longtemps, pratiquement jusqu'à quelques années avant sa mort. Oui. Non, c'est un nouveau statut devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner et de douter. Le Sauveur va aussi juger le monde parce que c'est la volonté du Père. Et c'est ce qu'il dit ici maintenant. Pourquoi s'en étonner? N'a-t-il pas guéri le paralytique? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Guérir un homme paralysé pendant 38 ans ou discerner ce que Dieu a fait? Non. Mais le Sauveur qui est au cœur de la Bible, c'est le Christ souverain qui donne la vie spirituelle et qui un jour ressuscitera tout homme, tout être humain, soit pour la vie éternelle, soit pour le jugement et la condamnation éternelle. Et vous voyez comment le Seigneur se présente devant ses pharisiens. Il ne fait pas de compromis. Il est le Dieu souverain. Et la porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais comme on le sait, elle est étroite et tout le bagage des pharisiens ne pouvait pas passer. Ne pouvait pas passer. Encore une fois, notre foi et notre message sont-ils au cœur de la Bible? Donc les promesses que Jésus donne, les preuves que Jésus fournit. Parce que si on reçoit les réclamations de quelqu'un, les prétentions de quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait un certain poids dans ces choses. Est-ce qu'il a des... J'arrive jamais à trouver le mot, credentials. Est-ce qu'il a des appuis pour ce qu'il réclame, n'est-ce pas? Parce que Jésus réclame de grandes choses, notamment la divinité, l'égalité avec le Père. Et devant des Juifs, ça, c'était beaucoup. Il a exigé, tel un monarque, l'adoration, l'obéissance. Enfin, il a donné des promesses royales. Quiconque croit, entend et croit, a la vie éternelle, la vie nouvelle, le salut dans la résurrection finale et échapper au jugement des impies. Ça, ce sont des promesses. Et on peut imaginer une objection. Sur quoi te bases-tu pour faire de telles affirmations? Est-ce qu'on peut te croire? Est-ce que tu as vraiment la carrure pour te croire? Qui atteste de ce que tu dis? Et Jésus anticipe cela en apportant un témoignage qui est multiple. Alors, quand il dit que son témoignage, s'il porte témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Non, non, son témoignage est vrai. Mais il n'a aucune valeur dans un cas de légal, dans un cadre légal. Il n'a aucune valeur dans le sens qu'on ne peut pas témoigner de soi-même, puisqu'on pense tous qu'on est bien quand même, finalement. Par quelques chimies bizarres, les choses vont retomber sur leurs pattes à la fin. Donc on ne peut pas apporter témoignage de soi-même. Et Jésus se place là parce qu'il est homme. Ça n'est pas à lui de porter témoignage de lui-même. Non, son témoignage est vrai, mais il accepte de le mettre de côté. Mais il y a d'autres témoignages, et leur origine n'est pas en doute, même parmi les Juifs. Ces témoignages-là, qui témoignent de Jésus-Christ, même les Juifs les acceptaient. Témoignage de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Et les Juifs sont allés vers Jean-Baptiste. C'était quelqu'un qui était extraordinaire, bizarre même. Ce que cet homme a annoncé, ne s'est-il pas produit? Et ici, en fait, Jésus ramène ces Juifs, ces chefs des Juifs, à leurs Écritures. Parce que, même quand Jean-Baptiste était en prison, rappelez-vous, il entend des choses au sujet de Jésus, mais ça ne cadre pas avec la vision humaine que Jean-Baptiste a. Et il envoie une ambassade auprès de Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'il faut qu'on attende un autre? Comprends plus, pauvre Jean-Baptiste, parce que maintenant son ministère est fini, qui était d'annoncer la venue du Fils de l'homme. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il répond exactement par ce qu'il vient de faire devant ces Juifs. Il donne, il guérit, il donne la vie, il proclame la libération. Et ça, c'était quoi? C'était les passages d'Ésaïe qui annonçaient le Messie. C'est celui qui va venir et qui annonce l'année du jubilé, c'est-à-dire la grande libération. Oui. Et donc, ici, ce que Jean a dit se passe. Jean a dit, celui-là, je ne suis même pas digne, il est beaucoup plus grand que moi. Il juge différemment, c'est-à-dire qu'il fait les choses différemment. Il vient avec un autre pouvoir. Ce n'est pas l'ami de l'époux, c'est l'époux lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il guérit. Nul homme ne peut guérir de cette manière-là. Donc, voilà le témoignage de Jean. Ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et à l'époque, il y avait une grande attente messianique. Les gens vont tout de suite voir Jean et disent, mais es-tu le Messie? On attendait beaucoup de Messie. Et comme il est dit dans les évangiles, il y en a beaucoup qui sont parus en disant, c'est moi. Ne les croyez pas. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste. Mais il n'y a pas que cela. Il y a les signes, les miracles, les signes. Plus que les paroles de Jean, il y a ces miracles. Aujourd'hui, beaucoup s'amusent avec les miracles. Mais les Juifs n'étaient pas de cette manière-là. Non. Il y a des gens qui s'amusent avec les miracles, qui sont séduits par les miracles, qui sont, en fait, comme acte 8, hein, qui sont subjugués par les miracles. Comme Simon à Samarie était, il était en fait séduit par le miracle. Et Jean chapitre 2, la fin du chapitre 2, beaucoup étaient séduits par les miracles qu'il faisait. Mais rappelez-vous quand Nicodème vient le voir, Nicodème a une grande question. Et cette question, elle est suscitée par le fait que si Jésus fait ces miracles-là, ces signes, cela veut dire qu'il vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire ça, à moins que Dieu ne l'ait envoyé. Donc les Juifs étaient très au clair par rapport à cela. Et puis, il y a toutes sortes d'autres miracles quand il guérit l'aveugle né de naissance. Alors les Juifs, tout de suite, ils voient qu'il y a quelque chose là. Ils refusent d'accepter la chose. Mais ils le voient. Et plus que le miracle physique, Jésus accomplit le miracle de la rédemption, de la rédemption. Il est venu, il a vécu cette vie parfaite, si bien que même ses ennemis ne pouvaient rien trouver. Et il est mort sur cette croix où il ne devait jamais monter. Jamais. C'est cette mort d'expiation, de substitution, expiatoire. Donc le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des signes et le témoignage de Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu, plusieurs fois, atteste Christ de façon audible, d'une manière, mais aussi par l'autorité et la puissance qu'il lui accorde. Allons dans Actes chapitre 2. Et vous rappelez que Pierre se lève devant des Juifs et il leur présente Christ. Et au verset 22, « Homme israélite », donc il parle à des Juifs, attention, hein, « écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc les Juifs étaient sans
excuse.
Ils avaient le témoignage de Dieu. Quand les Juifs voyaient les miracles, ils ne voyaient pas simplement les miracles. Ils voyaient le fait que Dieu donne la puissance à un homme pour accomplir ses miracles. Ça, c'était un message très fort, très fort, que les Juifs refusaient de recevoir. Donc, le témoignage de Dieu lui-même, mais le témoignage de l'Écriture, un autre témoignage. Toute l'Écriture que ces Juifs étudient continuellement pointe vers ce Messie. Elles annoncent qui il sera et ce qu'il fera. Voilà quelqu'un qui vient et il est Dieu, quelqu'un qui vient et il est homme, quelqu'un qui vient et il va servir, quelqu'un qui vient et il va souffrir. Mais en souffrant, les Écritures le déclarent, en souffrant, il va ouvrir la porte de telle manière qu'il va rassasier ses regards, c'est-à-dire que son œuvre va réussir. Et quelle est son œuvre? C'est de donner la libération. C'est l'année du jubilé. Et pour un juif, l'année du jubilé, c'était vraiment important. En fait, un juif ne connaissait au plus que deux fois cet événement dans sa vie. L'année du jubilé, tous les 50 ans. Et, bien entendu, pour le juif, cela montrait la libération. Et ça n'était pas simplement la libération des Romains. Ça, c'est ce que les pharisiens avaient dans leur compréhension étriquée, l'avaient réduite à ce niveau-là. Mais non, c'était le fait que tout pointait vers ce Messie. Et le mystère du salut n'est pas un mystère pour qui prend garde au témoignage de l'Écriture. Maintenant, même les Juifs encore aujourd'hui, les Juifs purs et durs, ils lisent Ésaïe et ils ne voient pas que cela parle de Jésus-Christ. Mais même les gens les plus simples, les moins éduqués, on leur fait lire cela et ils disent « Mais oui, ça parle de Jésus-Christ. C'est clair. » Ce qui ne veut pas dire nécessairement que ça produit la foi, mais c'est clair. Et ça n'est pas un mystère pour qui prend garde au témoignage de l'Écriture. Et ici, les Juifs ne prenaient pas garde au témoignage de l'Écriture. Ils cherchaient quelque chose. Ils savaient ce qu'ils allaient trouver avant d'arriver. Et bien entendu, ils ne trouvaient que cela, c'est-à-dire l'intellectualisme. Ainsi, lorsque Jésus explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit, mais ne fallait-il pas que le Christ souffre? Et il commence à leur ouvrir les Écritures. Et là, les seules Écritures qu'il y a, c'est l'Ancien Testament. Et ils disent, mais notre cœur brûlait, n'est-ce pas, alors qu'il nous montrait en chemin ces choses-là. Et il leur montre ce qui le concerne dans les Écritures. Ils pensent donc voir ce qu'il concerne dans Moïse et les prophètes. Et il y a encore le témoignage de Moïse. Témoignage de Moïse. Alors là, le Seigneur Jésus, vraiment, il met la cognée à la racine du pharisaïsme. Le jugement ne s'abasera pas selon des critères fumeux, des choses qui ne sont pas définies, qui n'ont pas vraiment de consistance. Non, ce sera sur la base de Moïse. Alors, attention, là, c'était important pour les Juifs. Moïse, c'est de lui qu'ils se réclamaient. Moïse a donné la loi que nul homme ne peut observer. C'est pour ça que les pharisiens, eux-mêmes, ils multipliaient les commandements. Ils allaient plus loin que Moïse. Pourquoi? Parce que ce que Moïse a donné ne permet pas de vivre. Au contraire, ça mettait à mort. Et Moïse a annoncé la venue d'un prophète comme lui, c'est-à-dire celui qui va annoncer la parole de Dieu, celui qui va faire sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Comme lui, c'est le prophète qu'il faut écouter. Moïse ne dit pas « écoutez-moi ». Mais Dieu va amener quelqu'un d'autre. Et comme l'auteur de la lettre aux Hébreux montre, celui qui vient est bien plus grand que Moïse, comme la maison est plus grande que celui qui est dans la maison. Et celui-là, il faut l'écouter. Les Juifs étaient très friands de Moïse, mais son témoignage même les condamnera. Et le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de Moïse, le témoignage de la loi, condamne quiconque veut s'attacher à autre chose qu'au cœur de l'Évangile qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à l'homme d'obéir à la parole de Dieu. Absolument impossible. Il faut que Dieu œuvre une œuvre nouvelle. Donc, les témoignages, les preuves que Jésus fournit, mais finalement, il y a cette mise à nu du cœur. Les Juifs avaient de grands privilèges. Paul en fait toute une liste. On l'a lu dans Romains, on en a parlé. Il y a d'autres passages où il montre leurs avantages. Et pareillement, tout homme, il n'y a aucun homme qui est dans l'ignorance. On ne peut pas dire, je ne viens pas à Christ parce que j'ignore qui est Christ. L'Église a bien déjà commencé à remplir son mandat d'annoncer Christ partout. Il y a suffisamment de témoignages pour se tourner vers le Sauveur. Témoignage d'un cœur mauvais, témoignage de l'impossibilité de la loi et toutes ces autres choses. Où est le problème? Et, mes amis, le problème, c'est que personne ne sera condamné à cause de son ignorance. Personne. On pense qu'il faut savoir plus. Ça, c'était le problème avec les Juifs. Ils passaient leur temps à sonder l'Écriture parce qu'ils pensaient qu'en elle, il y a la vie. Donc, ils savaient qu'ils n'avaient pas la vie. Le Juif pur et dur, le pharisien, ne meurt pas par ignorance. Pas du tout. Le grand problème est mis au jour par Jésus au verset 40 et 42. 40 à 42, regardez. Il parle des Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous cherchez la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi. Ils ont mis Christ hors limite. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Pourquoi? Parce que c'est comme nous avons vu mercredi, c'est les frères de Jésus qui percutaient de façon humaine. Alors, il dit, mais les gens, les autres, le monde ne vous hait pas, parce que le monde vous comprend. Mais pour Jésus, non. Et ici, il dit, si quelqu'un vient, un autre vient, alors, vous le recevrez. Pourquoi? Parce qu'il est comme vous, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et ici, on a vraiment le cœur de l'Évangile, le cœur de la religion. On s'aperçoit que ces deux choses-là ne peuvent pas cohabiter. Quel est le cœur de la religion? Tirer gloire les uns des autres. Combien c'est frustrant des fois quand je vais prêcher dans des endroits, les gens font introduction, la présentation de la personne. Tu es là en train de dire, mais bon, arrête vite, passons à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et en fait, c'est très important parce que chercher la gloire des autres, de la part des autres, chercher à avoir une bonne image de soi, en fait, est un obstacle à la foi. C'est ce que Jésus dit. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Vous dressez un obstacle qui vous empêche de venir à la foi. C'est vraiment grave, ça. C'est vraiment grave. Mais quel est le cœur de l'Évangile? C'est chercher la gloire qui vient de Dieu seul. Et quelle est la gloire qui vient de Dieu seul? C'est celui qui vient sans gloire, mais avec pouvoir, avec puissance, attesté par Dieu, attesté par toute chose. C'est Jésus-Christ lui-même. Ils ne veulent pas venir. Le cœur humain n'est pas neutre vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, il sait, mais il ne veut pas. Vous ne voulez pas venir à moi. Ce cœur est hostile à Dieu. Pourquoi? Parce que il n'a pas l'amour de Dieu en lui-même. C'est un cœur qui est issu de la rébellion. La rébellion qui a écarté Dieu. L'orgueil, le rejet de Dieu ne sont que des manifestations d'un cœur impénitent, d'un cœur naturel, ce cœur avec lequel nous sommes tous nés. Et c'est précisément ce que Christ est venu rétablir. Prendre le cœur de pierre, l'ôter par son œuvre, et son esprit met un cœur de chair, un cœur qui vit par rapport à Dieu. Le cœur du salut, c'est cette nouvelle alliance où ceux qui en bénéficient reçoivent un cœur nouveau. Alors, on peut encore beaucoup parler parce que ce passage est très riche. D'ailleurs, ça m'a lancé pour en faire une étude plus poussée. On verra, n'est-ce pas? Mais c'est ici. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me situe? Et instinctivement, inconsciemment, et contre notre gré, je pourrais dire, on s'est immédiatement situé dans notre tête du côté des bons. Ouais, quand même, ça va aller. Alors, ensuite, on peut bien développer la chose, que c'est à travers Christ et tout ça. Mais est-ce que véritablement mon espérance est enracinée et fondée sur le seul espoir qui est Jésus-Christ, le cœur de l'Évangile, celui qui ouvre la porte afin que Dieu donne un cœur nouveau, afin que Dieu donne la vie? Sans cela, je peux savoir toutes sortes de choses. Comme les pharisiens, je peux sonder les Écritures, je peux connaître les Écritures dans les langues originelles et tout ce que je peux ajouter. Je peux pratiquer une religion sans faille, comme les Juifs faisaient pratiquement. Je peux même augmenter, vous rappelez ces pharisiens dans le temple. Alors je jeûne, je ne sais plus combien de fois par semaine et tout ça, alors que Dieu n'a pas demandé un quart de ça. Ah, quand même, hein? Quand même, il faut mettre Dieu en compte. Ça, c'est le cœur de la religion. Est-ce que ce sont des choses qui me touchent? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles je me base? Alors, le plus vite j'écarte ça, le mieux ça vaut. Et comment écarter ces choses? Tout simplement en entendant et en adorant, c'est-à-dire en obéissant à la parole. Et vous vous rappelez ce père dans les évangiles, le Seigneur lui dit, mais tout est possible à qui croit. Tout est possible à qui croit. Et ce pauvre homme, il veut bien croire, mais il comprend qu'il ne peut pas. Alors il dit, mais Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et ça, c'est la prière, c'est le cri qui doit sortir de nos cœurs continuellement. Amen.